Bonjour et bienvenue sur le podcast Insensé. Ici Kelly Méran. Le podcast Insensé, c'est le podcast en quête de sens. J'y interview de belles âmes qui alignent leurs valeurs, leurs rêves et leurs croyances avec leurs projets de vie. Et ça fait sens. Insensé, c'est aussi un podcast indépendant qui a besoin de vous. Pour le faire vivre, je vous invite à ajouter 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. J'en profite pour remercier Valdiju, qui a écrit le commentaire suivant. Pour tous ceux qui aiment découvrir d'autres visions et s'ouvrir l'esprit, ce podcast leur fera sens. Un podcast qui peut être rassurant face aux défis que la vie place sur le chemin de chacun.
Voici comment l'histoire a commencé.
Je crois que ce surmenage nous guette tous.
Ah ben alors ?
La vie moderne étant ce qu'elle est.
Vous bossez.
What's your purpose? What's your cause? What's your belief?
C'est du bon pain.
Craquez au bureau.
Bolche.
Réfléchissez.
La vie a-t-elle un sens?
Qui suis-je?
Mais il est complètement fou ce mec!
À demain!
Aujourd'hui, je reçois Fanny Auger. Lumineuse, passionnée et alignée. Ce sont les trois premiers mots qui me viennent à l'esprit. Ça se sent et vous allez l'entendre. C'est une guerrière des projets qui lui parlent. Dans une même vie, dans un même corps et un seul et même emploi du temps, Fanny est directrice de la marque Nature et Découverte. Elle est professeure de Soft Skill à Sciences Po, un cours dans lequel elle aborde la confiance en soi, la recherche de sens, entre autres. Elle a un orteil ou deux dans My Little Paris, où elle a travaillé pendant un peu moins de 10 ans. Elle est aussi conférencière sur des sujets comme l'art de la conversation. Et enfin, elle est fondatrice de l'école School of Life, qui donne des cours d'intelligence émotionnelle. Dans son école, les profs sont des philosophes, artisans, artistes, clowns ou encore des start-upers. Des gens dans le faire et dans le être. Fanny a 3 passions. La culture, la nature et la transmission. On lit sur son profil LinkedIn la citation de Confucius. Trouve un travail que tu aimes et tu ne travailleras pas un jour de ta vie. Fanny n'a pas qu'un travail, mais plein de projets, n'a pas une passion, mais plusieurs. Fanny m'a interpellée car beaucoup de ces sujets me tiennent à cœur et aux tripes. Aussi, j'ai moi-même plusieurs casquettes et j'ai toujours eu un peu de mal à m'assumer comme ça ou à me présenter. J'ai toujours du mal à mettre un titre sur ce que je faisais et je crois que mon entourage aussi. Mais il y a toujours un fil rouge, n'est-ce pas ? J'aimerais vous inviter à découvrir le fil rouge de Fanny Auger, qui l'amène à cette diversité passionnante et cohérente de projets qui lui vont à merveille. J'aimerais comprendre comment elle a trouvé son alignement, son authenticité et ses valeurs. Il semblerait qu'une étincelle, une passion l'anime dans chaque projet. C'est entraînant, c'est lumineux. Je vous laisse découvrir le personnage. Bonjour et bienvenue sur le podcast Insensé, Fanny. Je suis ravie d'être ici avec toi. On est au pied de Montmartre, dans ton merveilleux appartement. Merci de me recevoir. Comment ça va aujourd'hui ?
Super bien. Bonjour Kelly, je suis ravie. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Je vais bien, sauf que je suis très maladroite depuis ce matin. J'ai déjà cassé 2 tasses et je fais tout un peu à l'envers. Donc je pense que après l'enregistrement, je vais faire une petite séance de yoga.
Ça très bien.
Du bien.
Très bien. On te garde éveillée en attendant. Fanny, tu as écrit un livre, Trêve de bavardage, aux éditions Kero, qui amène chacun à maîtriser l'art de la conversation. Et ce qui m'intéresserait, avant qu'on commence cette conversation, c'est de savoir quelle serait la recette pour que le goût de cette conversation soit délicieux.
De cette conversation qu'on a maintenant ?
Oui.
Je dirais, pour moi, une conversation qui a du sens, hein, c'est une conversation qui nous fait dire des choses qu'on n'a jamais dites auparavant. Donc on ne sait pas où cette conversation va nous mener. Et il y a aussi des conversations qui nous marquent. Et je pense que les plus belles conversations sont les conversations un peu émotionnelles, où il se passe quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on va pleurer, hein, mais où on va peut-être voyager, on va peut-être explorer des choses et on va peut-être vibrer, on ne sait pas. Et ça me rappelle cette citation de Maya Angelou que j'adore, qui dit « Les gens oublieront ce que vous avez fait, ils oublieront ce que vous avez dit, mais ils n'oublieront jamais comment vous avez fait en sorte qu'ils se sentent avec vous.
» D'accord, très bien. On a quelques indices pour une recette, une conversation délicieuse. Peux-tu commencer par nous raconter rapidement ton parcours ?
J'adore l'expression « se perdre sur les chemins de traverse ». Et je pense qu'on ne s'autorise pas assez, surtout avec notre éducation française, à prendre le temps d'explorer des voies. Moi, cette citation-là, je répondrais la citation de Tolkien. C'est une lettre de Gandalf qui dit « Tous ceux qui errent ne sont pas perdus ». Pour résumer mon parcours, je me suis autorisée des détours, des chemins de traverse, et qui au final me mènent sur ma voie à moi. Ce qui est compliqué aussi, c'est que je crois qu'on est à un moment clé du monde, du temps, de l'histoire, où les femmes, nous sommes aussi éduquées que les hommes, voire même plus. Parce que je regarde les sorties des grandes écoles, dans une grande école que je connais bien parce que j'ai fréquenté et j'y suis prof, 61% des diplômés sont des filles. Mais il y a un moment où en fait on ne les retrouve pas, alors je ne sais pas où elles se perdent en chemin. En tout cas, moi j'aimerais tellement que la nouvelle génération, elle prenne enfin le pouvoir et arrêter de voir des costumes sombres. À chaque fois que je suis invitée à une table ronde sur scène ou à monter sur scène, je suis entourée de costumes sombres. Moi je veux voir des couleurs, je veux voir des talons, je veux voir des talons qui claquent, des cheveux longs et des filles qui sourient. Donc, allons-y en avant.
De l'expression personnelle à travers aussi.
Donc, je ne me suis pas du tout présentée, en fait.
Tu ne l'as pas présentée. Mais tu as parlé de détours. J'essaye de piocher dans ce que tu viens de nous partager. Tu as parlé de détours. Mmh. Peux-tu nous parler justement de ces détours de vie?
Je crois que dans la vie, j'ai beaucoup plus appris de mes échecs que de mes succès au final. Souvent, quand on entend parler de quelqu'un d'inspirant qui est interviewé, on parle de ses succès. Moi, je préfère parler de mes échecs. Et moi, je ne vais pas remonter trop loin, mais après mes études, j'ai commencé à travailler dans un grand groupe et j'étais pas du tout à l'aise, j'étais un vilain petit canard. Et ça m'a ravivé ma niaque pour me dire, mais t'as pas fait tout ça pour atterrir là. La vie professionnelle, c'est pas 40, 45 ans là, à moisir ici, en attendant vaguement d'évoluer. Je me voyais pas du tout et du coup, ça m'a poussé, ça m'a forcé, ça m'a donné des ailes en fait pour partir vivre à l'étranger pendant longtemps. Et alors c'est souvent ce que je conseille aussi aux jeunes qui cherchent un travail en France et qui ont du mal parce que c'est pas facile aujourd'hui, ben aller à l'étranger, que ce soit pendant un an, moi je suis partie 5 ans et demi quand même, puis après je suis repartie et repartie, mais voilà. Donc je suis partie après un premier échec professionnel, je suis partie vivre à Dubaï pendant 5 ans et demi. Et c'est pas la ville de mes rêves, hein, sincèrement. Je faisais beaucoup de yoga et de tennis là-bas. Mais j'avais un job génial. Hein, et surtout, j'ai appris à m'affirmer. J'ai vraiment appris l'assertivité. Comment, en étant une femme occidentale, je pouvais poser le poing sur la table et finalement m'imposer. J'ai vraiment appris ça. Le leadership, l'assertivité, la force, le courage aussi. C'est des choses, je pense, qu'on n'apprend pas à l'école. C'est bien dommage, mais c'est la vie qui nous les apprend au final. Donc voilà. Donc je suis rentrée en France en 2010. J'ai encore pris quelques chemins de traverse. J'ai vécu à Milan. J'ai travaillé pour une très belle marque de souliers italienne. Et au bout d'un moment, je me suis dit, allez hop, je me lâche en 2012. Et j'ai lancé ma première start-up sur l'art épistolaire qui s'appelait Lettres d'un inconnu. Okay. Échec total. C'est-à-dire que...
L'art épistolaire, est-ce que tu peux nous expliquer?
On s'abonnait. Et deux fois par mois, on recevait dans sa vraie boîte aux lettres une jolie lettre en papier, imprimée sur un super beau papier, d'un inconnu qui nous racontait une belle histoire. Donc moi, je curatais 2 belles histoires par mois et je les envoyais à toute la communauté. Donc j'avais des milliers d'abonnés partout dans le monde. Alors, c'était magnifique. J'ai eu énormément de presse, de médias, d'interviews. Le projet plaisait à tout le monde, beaucoup d'abonnés. Mais moi, je passais des heures à coller des timbres et écrire des adresses à la main. Et je ne voyais pas le bout du tunnel, surtout que financièrement, c'était une catastrophe. J'ai perdu beaucoup d'argent, il faut le dire quand même. Hein, parce que j'avais bien économisé. Je voulais monter ma boîte et je me suis dit, soit je m'achète un appart et je reste sage et dans des boîtes, soit je monte ma boîte, et là, j'ai sacrifié mes économies. Mais je crois que c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Mmh. Parce que j'avais cette petite voix à l'intérieur de moi qui me disait, t'es sur le bon chemin. Je ne sais pas où ça va
fonctionner. Donc il y avait la gestion quotidienne.
Oui, la gestion quotidienne, je me suis perdue dans le micro, la micro-gestion, et financièrement non plus, ça ne faisait pas sens. Mais bon... Je ne serais pas là, encore une fois, où je suis si je ne l'avais pas fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai monté The School of Life Paris en 2014. Donc, ce n'était pas encore la mode du développement personnel en France. Mais j'ai trouvé génial cette idée londonienne d'avoir une école pour apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école, avec des cours du soir de rattrapage sur la vie pour adultes, avec une approche très culture générale. J'ai trouvé ça absolument fascinant de bosser sur les soft skills, l'intelligence émotionnelle, mais avec des exemples issus des beaux-arts, de la philo, du cinéma, on fait du théâtre parfois, etc. Et mes profs sont une bande de joyeux de rire, de joyeux doudingues, qui sont, à mon avis, hyper inspirants et humbles à la fois, qui ont du panache et l'humilité qu'il faut pour enseigner et transmettre. Et ça fait maintenant 6 ans que j'ai ouvert The School of Life Paris. Wow.
Bravo. Bravo. Et ça t'amène à aujourd'hui avec donc School of Life, Nature et Découverte, et My Little Paris aussi qui a fait partie de ton parcours.
Ouais, My Little Paris a été fondée par ma meilleure amie et d'accord. deux de mes très très bonnes amies, trois même. Donc c'est vraiment des gens que j'apprécie, que j'admire aussi, des filles sensationnelles qui ont réussi à créer un monde, un univers pareil en suivant leur alignement. Leur passion et puis elle continue d'émerveiller au quotidien 5 millions de Parisiens ou Parisiennes. Donc c'est formidable.
S'il y avait un événement qui t'a vraiment changé ton point de vue sur la vie, ce serait lequel ?
La mort de mon ami. La mort de mon meilleur ami le 13 novembre 2015. C'est le point de clivage dans ma vie, j'ai l'impression qu'il y a un avant et un après. Là, ce midi, je déjeune avec sa mère, on déjeune de temps en temps ensemble. Et là, ça m'a remis l'église au milieu du village. Là, je me suis dit, c'est pas juste, on s'était rencontrés en 2000, 15 ans avant. Et de mourir sur un trottoir à Paris en 2015, c'est juste... enfin, c'était impossible à comprendre. Et dans ma vie, il y a vraiment un avant et un après cet épisode-là. C'est marrant, hein. Sans faire exprès, je classe tout avant, après 2015. Et ça, je suis désolée, c'est pas gay.
Non, non, mais merci de nous partager
mais
ça.
Du coup, je suis très proche de... c'est étrange parce qu'on parle souvent des conversations, des gens qui patinent dans les conversations. Moi, à l'époque, le deuil, je me posais aucune question parce que j'avais jamais vraiment expérimenté le deuil si proche. Et surtout de quelqu'un de mon âge qui avait grandi avec moi. Les deuils des grands-parents, bon, c'est difficile, mais c'est différent. Et là, c'était compliqué. Depuis, j'ai une approche au deuil très personnelle, évidemment. Mais je parle de la mort. Et quand je ne sais pas pourquoi, quand je rencontre des gens qui viennent de perdre quelqu'un ou quoi, bah, tout de suite, ça vient à la surface. Et c'est le meilleur icebreaker du monde. Parce que tout de suite, il se passe un truc et ça rapproche. Et la semaine dernière, je suis allée en retraite yoga. Il y a une dame qui venait de perdre... voilà, deux personnes très proches et qui étaient encore dans ce limbe, dans ces limbes de douleur. Et je lui ai conseillé une chanson à la con, une chanson américaine, mais qui est la chanson, je crois, qui m'a le plus consolée.
C'est vrai.
À la mort de Sébastien. Elle s'appelle Charlie Puth, See You Again. Okay. C'est It's been a long way without you, my friend. Without and I'll tell you friend. About it when I see you again.
And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way,
yeah, we came a long way
from where we began.
You know, we started.
Oh, I'll tell you all about it when I see you again.
I tell you.
When I see you again.
Et cet événement douloureux, il t'a permis de te poser du coup les bonnes questions ?
Bah, en fait, moi, les bonnes questions, je crois que dès... depuis toute petite, je me les pose et j'essaye de m'autoriser. Alors, en étant très réaliste en même temps, hein, j'ai les pieds sur terre, mais le fait de partir vivre à l'autre bout du monde à 25 ans sans avoir jamais mis les pieds à Dubaï et quitter mon CDI à Paris dans un beau groupe de cosmétiques, tout le monde me disait « mais t'es complètement dingue ». Donc aujourd'hui, la crise de la quarantaine dont on parle, moi, je l'ai eue à 25 ans en fait. J'ai tout brûlé derrière moi et je suis partie et en fait c'est bien parce que ça m'a permis de me trouver au final quand on est si loin de tout, de ses amis, de ses références culturelles aussi et ben finalement là-bas il n'y a pas de culture hein. Donc moi je voyageais toujours avec une valise pleine de bouquins etc mais ça m'a permis de me trouver vraiment en fait, de se retrouver à poil nue, sans aucune référence culturelle, famille, amis au début, et ben c'est ce qui m'a permis de me trouver. Et puis après tous les choix que j'ai faits, c'était jamais les choix les plus faciles, mais en tout cas, j'ai toujours essayé d'écouter cette petite voix, cette petite intuition que j'avais, et lui laisser la place pour grandir. C'est pour ça que je crois beaucoup aux vertus du silence. Je parle beaucoup du silence dans mon cours de conversation parce que c'est pour les gens qui sont musiciens et qui écoutent ce podcast, vous connaissez l'importance du silence. Et en général, ça fait peur dans les conversations. Les gens, ils se jettent comme ça. Et c'est là où ils racontent n'importe quoi. Mmh. Donc moi, je fais là, vraiment l'éloge du silence. Faire silence en soi, autour de soi. Respecter le silence. Essayer d'en expérimenter au quotidien, même si on travaille, qu'on a des enfants et qu'on est entouré sans cesse de monde. Mais faire le silence en soi pour entendre à nouveau notre petite voix. Qui nous reconnecte avec nous-mêmes.
J'aimerais rebondir là-dessus, parce que sur les premiers épisodes que j'ai publiés, j'ai gardé certains silences. Donc je les ai pas coupés, volontairement, pas par flemme de montage. Et c'est quelque chose qui m'a été, pas reproché, mais c'était des retours qui me donnaient en me disant « on dirait que le téléphone s'éteint ». Et en réalité, ça suivait une question assez profonde. Donc la personne que j'interviewais prenait le temps de réfléchir à la réponse qui souhaitait donner. Et ce silence-là qui permet aussi à la personne qui écoute le podcast de prendre le temps de se poser cette même question, je le trouvais magique. Donc c'est intéressant de voir aussi justement ce petit malaise que ça procure. Et en même temps, une autre personne que je salue, du coup Sophia, qui me disait « Je commence à les apprécier ces silences maintenant ». J'apprends à les apprécier, voilà. Donc je voulais juste partager cette petite anecdote.
Je rebondis pour conclure, mais pour moi le silence c'est un cadeau aussi qu'on fait. C'est dans les moments de silence qu'il se passe souvent plein de choses. On vit dans une société où il faut toujours répondre du tac au tac pour avoir l'air malin. Pour moi ça m'appelle les salons de conversation du 18e où il s'agissait de moucher son adversaire. Il faut répondre du tac au tac. Et alors que le silence il est tellement rare que respecter le silence c'est autoriser la personne en face de prendre le temps de réfléchir pour mieux rebondir justement. Donc c'est un véritable cadeau qu'on fait.
Je te rejoins complètement. Aujourd'hui qu'est-ce qui t'anime parmi tous ces projets, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui?
La conviction, la croyance en mes valeurs, en ce qui m'anime, c'est-à-dire transmettre. J'avais ma rentrée il y a 2 jours avec mes étudiants de Sciences Po, ils sont en Master 1, et mon premier cours du semestre, c'est comment améliorer sa confiance en soi. Vaste sujet. Je leur ai parlé du syndrome de l'imposteur, alors ça a beaucoup résonné, et... j'aurais parlé d'embrasser son idiot intérieur. J'aurais parlé de Trump.
Embrasser-le ?
Son idiot intérieur.
Son idiot intérieur, ouais. Ok.
À la School of Life, on part du principe qu'on est tous idiots. Il y a 7 billions d'idiots qui peuplent cette terre. Et quand on voit les choses avec cette perspective-là, ça aide à assumer parfois des choses un peu compliquées où on n'aurait pas forcément confiance en soi. D'accord. Et syndrome de l'imposteur aussi, parce que je me dis toujours que les plus gros imposteurs ne ressentent pas ce syndrome. C'est la meilleure c'est la meilleure manière de s'en guérir. Par exemple, le président américain, c'est quand même le plus grand imposteur au monde, mais il se sent totalement légitime.
Ouais,
et puis en plus, quand on a le syndrome de l'imposteur, en général, on travaille 3 fois plus pour justement légitimer sa présence là. Et au final, du coup, on est bon. Donc,
Tu l'as ressenti, le syndrome de l'imposteur, dans ton parcours ?
Sans cesse. Quand j'étais à l'école, quand j'étais à Sciences Po, je me disais toujours qu'il y avait un monsieur qui allait venir me voir, me taper sur l'épaule et me dire « En fait, on s'est planté, mademoiselle, vous n'avez jamais réussi ce concours, vous partez tout de suite. » J'ai eu ça pendant 2 ans.
Oh, wow.
Et souvent, quand je monte sur scène, quand on me demande de venir faire un talk devant 800 personnes ou quoi, je me dis « Mais c'est à moi, je me retourne. » En me disant, mais pourquoi moi ? Il n'y a pas longtemps, c'est l'INSEAD, qui est une très belle école à Fontainebleau, qui propose les meilleurs MBA au monde, qui me propose de venir parler des objectifs de développement durable de l'ONU, en anglais, de faire une table ronde. On était 2 dans la table ronde, début décembre. Et là, je leur dis, mais vous êtes sûrs ? Pourquoi vous ne demandez pas j'ai cité quelqu'un d'autre, parce que je le trouvais tellement plus légitime sur le thème. Et la nana me dit « Non, c'est bien à toi que je demande. Bon, » J'ai bossé d'arrache-pied pour les apprendre par cœur, les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Mais au final, ça s'est bien passé. Mais moi qui rêvais de faire cette école, bon, il y a une dizaine d'années, j'avais considéré faire un MBA là-bas. Mais je n'avais pas les moyens. Parce que... là, je me disais « C'était fou quand même que je sois invitée pour enseigner une conférence là-bas. » Mais gros complexe de gros syndrome de l'imposteur. Et je l'ai encore régulièrement, mais j'en joue en me disant « Tiens, t'as le petit syndrome de l'imposteur qui se pointe, qui montre le bout de son nez. » Et je repense à Trump et je me dis « Tout va bien se passer.
» J'allais te demander ta technique justement pour t'en débarrasser.
Bah, c'est
Trump.
Ça.
Trump. Tout simplement.
Trump.
Très bien. Et le fil rouge entre tes cours à Sciences Po, entre School of Life, où tu abordes aussi des notions assez similaires de... j'imagine, dans ton cours de soft skills
en fait, à Sciences Po. J'enseigne à Sciences Po les soft skills qu'on enseigne à la School of Life.
Ok.
Mais d'accord. J'en fais profiter des jeunes qui en ont vraiment besoin aussi, qui ont 21, 22 ans, qui cherchent leur premier stage, qui ne savent pas trop. Et ça me fait vraiment plaisir. Mais en ce moment, j'entends partout, par exemple, des engagements féministes et compagnie. Et bon, je trouve ça très bien. Ce n'est pas mes combats, mais je trouve ça vraiment... remarquable que des gens s'engagent. Pour moi, ma manière de m'engager avec ces sujets-là, c'est de transmettre et transmettre la confiance, transmettre des outils ou des inspirations qui ensuite pourront aider les gens. Mais le fil rouge entre tout, je pense, c'est l'énergie et la conviction, ces valeurs, hein. Nature et découverte. Oh, si j'avais su, étant petite, en allant dans leur magnifique magasin, qu'un jour je serais directrice de la marque de Nature et Découverte, même je ne l'aurais pas cru. Ouais. On allait faire des ateliers d'astronomie à Metz, au premier étage, avec des gens incroyables. On avait des étoiles collées au plafond de notre chambre, etc., qui venaient de chez Nature et Découverte. Mais je n'aurais jamais imaginé être la directrice de la marque un jour. Et tout ça parce que... la nature me fascine, nature, biodiversité, mais aussi en tant qu'entrepreneur depuis 8 ans, c'est le fait qu'une entreprise puisse être engagée pour le bien commun en même temps. Parce qu'elle fasse du business, c'est normal, c'est le but premier, j'allais dire, d'une entreprise, c'est créer des emplois et faire du business, et en même temps être vraiment engagée. Je crois que Nature et Découverte est la plus belle marque française, qui est assez discrète et humble, donc les gens ne le savent pas forcément. À une époque, on entend beaucoup, beaucoup de greenwashing. Moi, j'ai envie de dire, l'engagement, le vrai, c'est un peu comme les frites McCain. C'est ceux qui en parlent le moins qui en font le plus.
C'est un des points que j'essaye d'aborder sur le podcast Insensé, c'est justement comment aligner le business avec le sens. Je sais que vous faites ça depuis longtemps chez Nature et Découverte. Quelle forme est-ce que ça prend concrètement ?
Nature et Découverte a une fondation depuis 25 ans qui reçoit chaque année 10% des bénéfices nets de l'entreprise. Donc chaque année, c'est plus €1,2 million qui sont donnés à des associations sur la biodiversité et la pédagogie active au contact de la nature. Donc c'est plus de 150 associations partout en France qui reçoivent des subventions de notre fondation, qui est sous l'égide de la Fondation de France. Donc il y a ça. Il y a ensuite beaucoup de pédagogie, beaucoup d'engagement, que ce soit au niveau des produits qu'au niveau de l'entreprise. Et on a été certifié par un label magnifique pour lequel je suis engagée également parce que je suis membre du conseil d'administration de cette association qui s'appelle Bilab pour animer la communauté Bicorp et convaincre plus de boîtes de devenir Bicorp. Et Bicorp, c'est quoi ? Donc, c'est une certification internationale super dure à avoir. C'est pas tu payes, tu l'as. Hein. C'est faut 80 points minimum. Et 80 points, c'est remarquable. C'est super dur à avoir. Qui atteste que l'entreprise est vraiment engagée et à tous les niveaux de son échelle de valeur. C'est pas juste vendre des produits recyclés, par exemple. C'est aussi socialement, en interne, en externe, toutes les filières jusqu'au tri, en amont de l'innovation, jusqu'aux filières de tri, en passant par les employés, etc. Et donc, ce label, il y a des marques comme Patagonia qui ont ce label. Des petites marques comme Squeeze, qui sont des petites gourdes pour mettre de la compote pour les enfants. Il y a des marques comme Innocent, les jus de fruits. Il y a le groupe Big Mama.
Ah oui.
Cogen, voilà. Et il y a de plus en plus, je crois qu'il y a 12 000 questionnaires qui sont ouverts, rien que sur la France, de boîtes qui veulent être certifiées, mais qui ont du mal encore à l'être.
Et qui y travaillent.
D'ailleurs, j'invite toutes les marques qui parlent d'engagement à longueur de temps de se confronter à ce questionnaire qui a 350 questions et qui a un vrai outil pour apprécier si on est engagé ou pas et à quel point on l'est. Moi, ça m'a fascinée, c'est au-delà de la nature et des magasins et du retail que je trouve fascinant chez Nature et Découverte, c'est une des plus belles marques françaises, je disais, mais c'est ce label aussi qui a fait que j'ai choisi de mettre un peu en parenthèse, enfin, bon, même si je fais encore plein de choses, mais mes entreprises pour rejoindre une marque. C'est comprendre de l'intérieur comment on peut être une marque magnifique, mais qui fait sens aussi pour la nature, pour la biodiv, socialement, écologiquement, et voilà. Et c'est essayer de comprendre, crack the nut, comme on dit en anglais, comment ça se fait. Et c'est pas simple, sinon il y a plus d'entreprises qui le feraient.
Et tu, Tu parles beaucoup d'engagement. Je me demande à quel point est-ce que cet engagement se matérialise par un impact derrière. C'est mesuré via Bicorp ou chez Nature et Découverte, par exemple.
Ouais, énormément. On est tous animés, en fait. Ça passe par aussi embaucher des collaborateurs engagés. Et c'est pas que les gens qui travaillent sur les engagements ou la RSE ou la fondation chez nous. Ça va des RH jusqu'aux gens de l'entrepôt. En passant par les gens des magasins, ils savent que leur travail est valorisé, reconnu, et ils ont le droit de proposer des choses aussi, et ils sont très écoutés. Un salarié sur 10 fait partie du réseau vert, donc c'est des ambassadeurs green dans tous les magasins de France. Il y a un réseau vert. Hier, c'était leur réunion à Versailles pendant les deux derniers jours. Je suis montée sur scène et en fait, le CODIR, on devait répondre à leurs questions.
Génial.
Ils nous posaient des questions sur « Et alors nos produits, ça j'ai pas compris, pourquoi est-ce que vous l'avez fait en Chine et pas en France ?» Bon, et ben, l'équation est simple, hein, elle est économique, hein, c'est que ben, c'est pas non plus mal, hein, mais par exemple nous on fait des produits qui sont recyclés à partir de bouteilles plastiques, de RPET. Nous on en fait des toiles pour faire des sacs, toutes nos lignes de sacs de voyage, elle est faite à partir de bouteilles de plastique recyclées en RPET. Et ben Plant Toys, cette usine qui fait ça, il y en a qu'une au monde et elle est en Chine. Donc oui, parfois il faut commander en Chine, mais c'est pour la bonne cause en l'occurrence.
D'accord.
Et voilà, mais je trouve ça incroyable de transparence, d'avoir le CODIR avec des micros à la main qui répondent à tous les questionnements en fait de ces
à disposition.
Ouais. Mmh. Ouais. On peut toujours faire mieux évidemment, mais en même temps il faut prendre aussi l'intérêt écologique derrière en fait. C'est est-ce que c'est possible et qu'on va pas casser cet équilibre. Donc voilà, mais c'est passionnant je trouve.
Et si on remonte d'un niveau, faire sens économiquement parlant, pour toi c'est quoi?
Là, je parlais au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui a maintenant plus d'une centaine de magasins et du coup, elle crée des emplois. Et ça, c'est magnifique. Je disais tout à l'heure, pour moi, le premier but d'une entreprise, c'est de créer des emplois. Je vais plus loin que le profit, etc. Le bottom line, c'est vraiment créer des emplois. Et d'ailleurs, et puis après, c'est aussi de faire plus. Et Nature et Découverte à une charte qui a été écrite en 90 avant l'ouverture du premier magasin, qui dit nous créons Nature et Découverte pour réconcilier l'homme, l'humain et la nature, le business et l'engagement. Donc c'est dans les plans depuis toujours de vendre des outils, des choses en magasin qui reconnectent d'une manière ou d'une autre l'humain à la nature.
Et pour une entreprise qui n'aurait pas forcément ça dans sa mission initiale, mais qui souhaite commencer à repenser sa chaîne de valeur, à repenser son mode de fonctionnement pour un meilleur impact et un meilleur alignement entre ce qu'ils font.
C'est très complexe. Je pense qu'il faudrait se faire peut-être accompagner. C'est la meilleure manière, en fait, avec des consultants qui sont là pour ça et qui sont, pour le coup, expérimentés. Nous-mêmes, on est accompagnés par une société qui s'appelle Utopie, qui a été fondée par Elisabeth Laville, qui est une femme brillante et incroyable, et avec laquelle Nature et Découverte a fait le premier bilan de développement durable en 93. À l'époque, on était la première société française à le faire. Et là, je suis en train de retravailler la raison d'être pour l'affiner encore, toujours avec eux. Et aujourd'hui, il y a des choses qui changent au niveau du gouvernement. Il y a la loi Pacte qui est en train de passer. L'article 61 propose aux entreprises de se munir d'une raison d'être, justement, pour trouver un sens à l'entreprise et pas faire juste du bottom line, de l'argent. Et il y a toutes les entreprises qui y vont de leur raison d'être, voilà. Mais je trouve que c'est bien parce que ça va dans le bon sens, en fait. Je crois que c'est le fonds américain BlackRock qui est un des fonds qui finance le plus de boîtes, etc. Dans ses vœux, il y a 2 ans, je crois, le président disait que maintenant, ils n'investiront plus que dans des projets qui font sens, qui ont du sens.
Et qu'est-ce qui fait sens?
Qu'est-ce qui fait sens? Bonne question, mais je pense justement voir plus loin, se dire ok, pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que je monte? Là, je parlais au niveau société, mais au niveau individuel, je crois que c'est rester aligné avec sa petite voix intérieure, avec ses valeurs, avoir des racines, ne pas oublier d'où on vient, et des ailes pour toujours essayer de devenir meilleur. Moi, j'aime bien me lever le matin en me disant qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? C'est rester sans cesse en perpétuel mouvement. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup peur du changement, de ce qui advient, et voilà. Mais je pense que si on se met dans une posture où on se dit le changement, ça fait partie de la vie, et ces changements permanents, on se sent tout de suite beaucoup, beaucoup mieux.
Merci. C'est toujours difficile de définir le sens. Je pense qu'il est vraiment propre à chacun. C'est aussi pour ça que...
Mais pour revenir à ta question sur qu'est-ce qui me pousse en avant dans la vie, j'ai l'impression que c'est une espèce d'énergie, de, je sais pas, de niaque. Alors, c'est de l'ambition, mais c'est pas de l'ambition au sens matériel ou de gloire et tout ça. C'est de l'ambition au sens je veux toujours essayer d'être la meilleure version de moi-même, en fait. D'essayer d'être... mon rôle modèle qui n'existe pas, enfin j'ai pas de rôle modèle, j'en ai eu à certains moments et quand j'ai rencontré les personnes en vrai, j'étais tellement déçue. Je pense à une créatrice de robes notamment, j'étais tellement déçue, je me suis dit oula, ok. Donc là aujourd'hui j'ai pas de rôle modèle parce que je crois que en tant que femme, alors tout le monde va citer Virginia Woolf, Simone de Beauvoir et tout, mais c'est pas le même contexte et c'est pas les mêmes jobs, elles étaient écrivaines ou philosophes. Moi je suis dans la vie, dans la société, je me pose des questions sans cesse. Je suis chef d'entreprise, je suis entrepreneur et en même temps je suis intrapreneur et je suis à 200% chez Nature et Découverte aussi, mais je trouve le temps de faire du bénévolat, de donner du temps, d'accorder du temps à mes amis, à ma famille, à ceux que j'aime, ou de transmettre là ton podcast, c'est de la transmission aussi. Et oui, je pense que c'est une énergie, une curiosité aussi. Et puis, c'est certaines valeurs d'honnêteté et de travail. Alors, c'est pas très glamour, le travail. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est parce que je bosse peut-être deux fois plus que la plupart. Je regarde pas mes horaires quand je suis au bureau. Je pars souvent dans les derniers. Et je rentre à la maison et je bosse encore pendant 2-3 heures. Si jamais j'ai un dîner, ben je bois pas. Comme ça, je peux rentrer. Je peux encore bosser une heure avant d'aller au lit. Et le week-end, j'ai un ami, Jérôme, qui est prof à la School of Life et qui un jour m'a dit une expression que j'ai retenue. Il dit, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui parle le vendredi soir autour d'un verre. Je vais monter ma boîte, je vais changer de job, je vais changer le monde. Mais il y en a très peu qui se lèvent tôt le samedi matin. Et moi, j'aime bien les gens qui se lèvent tôt le samedi matin pour changer le monde ou en tout cas essayer de contribuer à leur toute petite échelle.
Tu es donc à plein de jobs à temps partiel, entre guillemets.
À temps plein, en fait. J'ai plein de temps plein.
Tu as plein de temps plein. Ce que je me pose comme question, ce job, par exemple, chez Nature et Découverte, directrice de la marque, est-ce que ne pas être à temps plein dans le sens conventionnel du temps plein, ça t'empêche de faire des choses, ça te porte préjudice quelque part?
Je suis à temps plein chez Nature. J'y passe mon temps du lundi au vendredi, je pars de chez moi vers 7h30, 8h parce que c'est à Versailles, mais de 8h30, 9h jusqu'à 19h30, 20h.
Alors comment est-ce que tu gères tes autres projets en parallèle?
Et ben, en plus.
D'accord.
En plus.
D'accord.
Donc le soir, le week-end, tout à l'heure j'ai une conf-call avec, je suis en train de m'associer pour la School of Life, j'ai une conf-call avec mon associé. Mon cours à Sciences Po, l'année dernière c'était à 19h15 jusqu'à 21h15. Cette année c'est le jeudi de 8 à 10, donc c'est un peu avant le travail on va dire. Donc je suis à temps plein, mais j'ai au moins deux temps pleins.
Qu'est-ce que tu manges le matin?
Bon, tes bananes, hein. Bio. Non, mais en fait, je pense que le temps, on le trouve toujours. Moi, ce dont je me rends compte, c'est que le cerveau est magique. Le cerveau humain est infini, il est étirable, c'est incroyable. Après, moi, comme j'adore tout ce que je fais, mon job chez Nature et Découverte est plein de sens. La marque te donne du sens, mon travail me donne du sens, mon équipe me donne du sens, moi, je leur donne du sens. Mon job a du sens. Je me sens utile. Avec la school, c'est carrément en plein dedans, le sens. Transmettre à Sciences Po. Et en fait, tout fait sens pour moi. Donc, d'où la citation de Confucius sur mon profil LinkedIn. Je ne me rappelais plus que j'avais mis ça. Les gens doivent me prendre pour une dingue.
Pas moi, en tout cas. Tout va bien. Moi, je mets souvent en avant sur le site du podcast. Hein, c'est Heureux soit les fêlés, il laisse passer la lumière.
Oui, exactement. Léonard Cohen.
Je l'aime beaucoup, celle-là. Est-ce que tu as la sensation d'être éparpillée parfois?
Non.
Non?
Non.
Bon, alors on n'est pas dans le même club, mais j'y travaille.
Non, parce que je suis sûre que là où tu t'éparpilles, tu y repenseras dans un an, deux ans ou quoi, et tu vas te rendre compte que tu étais en plein dedans en fait. Tu sais, c'est un peu Steve Jobs, Link the Dots. Quand lui prenait des cours, il séchait tous ses cours à l'université, mais il prenait des cours de calligraphie le week-end, il ne savait pas trop pourquoi. Ben en fait, après, quand il a créé le traitement de texte, il s'en est rappelé et ça lui a permis de faire des typos différentes, mettre des espaces, etc., entre les mots, de jouer avec tout ça. Et du coup, moi, je suis certaine que justement, ce dans quoi tu penses t'éparpiller, tu devrais l'écrire sur une liste parce que peut-être que tu vas réussir à relier les points un jour. La seule chose, en fait, que je te conseillerais peut-être, si je peux me permettre, parce que bien j'aime sûr. Pas trop donner des conseils, mais c'est d'être jalouse de son temps. Et exigeante avec son temps. Si jamais, parfois, tu as l'impression de t'éparpiller avec des gens qui ne te le rendent pas, qui n'en valent pas la peine, il faut couper. Moi, c'est peut-être maintenant, c'est peut-être la quarantaine, hein, mais je n'ai pas de temps à perdre avec des gens qui ne le méritent pas, qui ne travaillent pas sur eux, qui ne te donnent rien, qui ne sont pas généreux de leur temps, de leur énergie, de je ne sais quoi, qui ne font que se plaindre, etc. C'est OK d'aller mal un moment. Moi, quand j'allais vraiment mal, j'avais envie de voir personne. J'avais envie de travailler sur moi d'abord. Mais il faut être plus exigeant avec son temps. Et aussi dans ses projets. Donc, d'une part avec ses amis, vraiment s'entourer. Et moi, perdre Sébastien, ça m'a remis l'église au milieu du village. J'ai dit au revoir à des gens en me disant « Tu n'es pas importante, je ne veux plus t'avoir dans ma vie, tu me fais du mal. » J'en ai dégagé... plusieurs comme ça de ma vie et c'est pas grave en fait. Depuis, j'ai plus de problème à dire au revoir ou à ne plus jamais voir des gens et voilà. Donc, faut être jalouse et exigeante avec son temps. Et aussi, niveau travail, par contre, il faut toujours que ce soit donnant-donnant. Il faut pas accepter jamais de travailler gratuitement. Jamais. Travail gratuit, c'est... Il y a une expression anglaise qui dit « If you pay peanuts, you get monkeys ». Et si jamais...
À différencier du bénévolat en tant que tel.
Oui, bien sûr. Mais si jamais on accepte de travailler gratuitement pour sa copine qui monte sa boîte, etc., il y a toujours un moment où ça va mordre un petit peu, en fait. Il va y avoir un déséquilibre ou quoi. Même si c'est symbolique, même si elle te paye en je sais pas quoi, en autre chose, eh bien, au moins, il y a un échange que vous avez estimé équitable à ce moment-là.
Une contrepartie. Mais
vraiment, il faut se respecter en fait. Notre temps est précieux, notre énergie, c'est notre capital le plus précieux pour moi. Et donc ne pas se disperser au sens donner du temps à des choses qui ne sont pas importantes.
Merci.
Non mais c'est bon à savoir pour tous les gens qui veulent se lancer en freelance. Moi j'ai fait l'erreur par contre. Vraiment, je fais l'erreur avec quelqu'un que je connaissais, qui avait une marque de bijoux, que je n'ai pas vue depuis des années. Hein. Et je ne sais pas si elle continue d'ailleurs aujourd'hui, mais qui m'avait proposé de travailler gratuitement pour elle et qu'après, je me paierais sur la com et tout. Seulement, en fait, un travail comme ça, ça prend 6 mois de prospection, 1 an de prospection avant d'avoir un vrai client. Puis alors après, ça prend un temps fou. Et j'ai travaillé comme une dingue, mais elle m'appelait 10 fois par jour en plus. Et je me suis laissée bouffer, je me suis laissée envahir. Et ça peut arriver. Mais il y a un moment où il faut dire, maintenant, stop. Je dégage ça de ma vie.
Très bien. Merci. On va retourner sur les cours de soft skills, les cours d'intelligence émotionnelle que tu donnes autant à Sciences Po que dans le School of Life. Déjà, c'est quoi des cours d'intelligence émotionnelle ?
Bah, pendant des années, on était dans un système où on privilégiait le QI, donc le quotient intellectuel, avoir des points de QI, est-ce qu'on est intelligent, est-ce qu'on ne l'est pas. Il y a des gens qui sont très très intelligents, qui ont fait de très très grandes écoles et tout, et qui n'ont pas d'intelligence émotionnelle. On me donne souvent l'exemple d'un ingénieur polytechnicien qui est un peu déconnecté de ses émotions. L'intelligence émotionnelle, je pense que c'est capter les choses, capter les gens, avoir la capacité de se mettre à la place de l'autre, percevoir les choses beaucoup plus finement. En fait, je pense que c'est une perception du monde beaucoup plus fine et beaucoup plus altruiste. Et pour moi, l'intelligence émotionnelle, elle est beaucoup plus précieuse que l'intelligence en tant que telle, finalement.
Je trouve ça génial que du côté de Sciences Po, donc l'éducation, j'allais dire classique, mais en tout cas, on n'est pas dans la School of Life, commence à s'intéresser à ces sujets-là. Ouais. Est-ce que tu penses que ça va dans le bon sens ?
Ben oui, carrément. Sincèrement, je ne dis pas à mes élèves, mais moi, j'aurais adoré à leur âge mais avoir aussi des cours comme ça, quoi. Là, j'aurais fait un cours de confiance en soi. Le prochain, c'est la créativité. J'aurais fait faire du théâtre d'impro pendant le cours de confiance en soi. Ils étaient un peu surpris de se jeter par terre, mais bon. Cours de créativité. Et puis après, on va faire le cours de conversation que j'adore. Et après, on fera un cours sur le pitch. Comment apprendre à se connaître. Alors attention, ce n'est pas une école de commerce Sciences Po. Hein. Les étudiants, ils sont un peu rêveurs, parfois un peu à côté de la plaque. Je vais leur apprendre à se présenter de manière très alignée avec qui ils sont, eux. Et de manière, j'allais dire, intelligente émotionnellement, pour justement pouvoir accrocher et pouvoir faire une différence en entretien. Parce qu'ils vont avoir à passer des entretiens, certains n'en ont jamais passé avant. Ils paniquent un petit peu, et de fait. Et je pense qu'il faut juste considérer qu'un entretien, c'est une conversation. C'est une conversation normée, mais c'est une conversation. Et si on arrive justement à faire basculer la dimension entretien formel en conversation, ben c'est gagné. Que ça va marcher, ça va faire des étincelles.
Et comment est-ce qu'on se présente avec de l'intelligence émotionnelle?
C'est prendre un peu de risque quand même, pour dire qui on est vraiment.
Se mettre à nu.
Ouais. Alors, bon, peut-être pas en entretien, mais en tout cas, moi j'aime bien, au lieu de demander, quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, au lieu de demander tu fais quoi dans la vie ou quoi de neuf, hein, j'aime bien demander raconte-moi à quel point t'es fêlé. Tout à l'heure, tu citais la citation de Léonard Cohen.
Heureux soient les fêlés, ils laissent passer la lumière.
Voilà. Et moi, j'aime bien demander aux gens à quel point t'es fêlé. Et j'aime bien regarder leur réaction. Parce que peu importe qui me répondent, en général, c'est plus la surprise, le sourire, les yeux qui pétillent et qui me reprend et qui me dit « Attends, tu veux dire fêlé au sens zinzin ou au sens fêlé broken, cassé ?» Et là, je leur dis, comme tu veux.
À toi de voir.
Et là, en général, c'est là où on a une vraie conversation. Mmh. Au lieu d'essayer de se faire passer pour une personne parfaite qu'on n'est pas, que personne n'est, c'est encore une fois embrasser son idiot intérieur. Je pense que quand on rencontre les gens la première fois, surtout en date, par exemple, on devrait justement laisser part à la vulnérabilité, à quelque chose d'un peu personnel. On ne va pas non plus tout sortir, hein. Mais en tout cas, laisser part à la personne qu'on est vraiment, parce que comme ça, on sait tout de suite, et la personne en face saura tout de suite à quoi s'attendre. En général, dans les films américains, c'est là où il y a les violons qui se mettent en route et ils tombent amoureux. Repense-y quand tu regarderas la prochaine comédie romantique américaine.
Ça marche.
C'est tellement flagrant.
Je repenserai à ça. Et cette question de à quel point es-tu fêlée, je pense la réutiliser incessamment sous peu.
Alors, pas en entretien d'embauche. Hein.
J'allais te poser la question, est-ce que c'est des choses dans les entretiens d'embauche ou dans les entretiens de personnes avec qui tu vas collaborer, chez Nature et Découverte ou sur les autres projets qui t'animent, comment est-ce que tu as des outils ou des questions particulières qui te permettent de comprendre les valeurs de la personne qui est en face de toi, de comprendre ce qui les anime au plus profond.
Y a une question que j'aime bien poser, c'est sur l'engagement, parce qu'aujourd'hui, c'est très à la mode, tout le monde veut être engagé. Et te dit, oui, je suis engagée, c'est une marque engagée, ça m'intéresse. Et puis en fait, tu te rends compte que ils attendent un peu la providence, quoi. Que leur travail leur donne du sens à leur vie ou un peu comme Superman, quoi. Moi, je préfère les gens qui sont déjà en mouvement, même si c'est donner une heure ou deux par semaine de son temps pour être bénévole au Resto du Cœur, dans une assos. La dernière personne que j'ai embauchée l'été dernier, c'est la directrice artistique de Nature et Découverte. À la fin de l'entretien, j'ai dit, voilà, vous me dites, vous êtes engagée, mais qu'est-ce que vous faites concrètement au jour le jour? Vous faites quoi le samedi matin quand vous vous levez tôt? Et elle m'a répondu, moi je suis bénévole pour une association féministe, j'aurais fait leur logo, leur site internet, leur identité visuelle, et voilà. Et j'ai trouvé ça génial. Au moins, je savais que c'était pas une personne métro boulot dodo. Moi, j'aime pas les gens lisses. Je recommande toujours aux gens d'aller à un entretien avec un truc qui montre un peu leur personnalité. C'est plus facile quand on est une fille de mettre une petite paire de boucles d'oreilles un petit peu spéciale, qui a un super brise-glace aussi pour ensuite parler de voyage, par exemple. Tiens, vos boucles d'oreilles en coquillage, hop. Mais d'avoir un petit détail comme ça qui personnalise. Un pull jaune, une petite chemise à fleurs ou quelque chose de joyeux et qui montre un peu un côté de son caractère, quoi. Parce que sinon, on a des clones en face de soi, il se passe rien. C'est terrible. Cette semaine, j'ai fait un entretien téléphonique avec une jeune femme en DUT deuxième année qui voulait un stage. Et en général, c'est dur les entretiens téléphoniques, mais c'était simplement le ton de sa voix, son enthousiasme, et je l'ai trouvé hyper smart. Elle rebondissait super bien aux questions, je l'ai trouvé super smart, connectée, enfin vraiment chouette. Et voilà, donc moi je m'en fous complètement des études, de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait, et voilà. Je veux juste des gens qui soient bien dans leur basket et qui aient vraiment l'envie de contribuer à quelque chose. Et quelqu'un avec qui je me dis, moi j'aurais plaisir à la voir tous les matins.
Il y a donc beaucoup d'intuition dans tes mécanismes et dans ce que tu entreprends aujourd'hui. Est-ce que tu as développé cette intuition à travers des outils ou des techniques ou des stages, par exemple ?
Écoute, j'étais formée au coaching, par exemple, donc je pourrais te sortir des outils et tout, mais... Non, je pense qu'après, c'est une histoire d'expérience. À un moment, je recrutais beaucoup pour My Little Paris. Je rencontrais 10 personnes par jour, parfois, à la chaîne, pour différents postes. Et souvent, je rentrais chez moi le soir, vidée, vannée, et je me rappelais de personne. Personne. Tout ça parce que les gens qui venaient aux entretiens et se montraient sous leur meilleur jour, complètement lisse. Et je rentrais chez moi, je n'avais aucune idée de qui était cette personne. Et j'ai vu une fois une jeune femme se présenter, je ne dirais pas où, dans quel contexte, parce que... Mais la manière dont elle s'est présentée, je l'aurais embauchée pour n'importe quoi. Elle a commencé par dire qu'elle avait grandi dans un petit village qui n'est même pas sur la carte de France. Tout petit village où il y a plus de vaches que d'habitants. Et que de fait, elle s'ennuyait beaucoup quand elle était petite. Donc elle a lu beaucoup. Et elle a grandi grâce aux livres, à travers les livres et avec les livres. Et donc aujourd'hui, c'est ça qui l'anime. Et elle voulait travailler dans l'édition. Oh, mais c'est génial de commencer un entretien comme ça. Vous savez, quand la RH, elle vous dit « Bon, présentez-vous en une ou deux minutes, présentez votre parcours. » Mais quelqu'un qui me dit ça, je m'en fiche complètement de son parcours et tout. Je me dis « Waouh, cette personne-là, elle est animée. Ouais. » J'ai tout de suite compris son « why ».
Et je vois qu'on est entouré de bouquins ici. C'est aussi quelque chose qui t'a animé ?
Ah oui, mais j'ai une maîtrise de l'être moderne.
Ah ben voilà.
Oui. Littérature, les livres ont changé ma vie. Je pense que c'est un super outil pour grandir, pour vivre mille vies, pour avoir un bon orthographe, hein, ce qui est de plus en plus rare. Et ça me rend dingue. Et puis, c'est ce que je conseille aux enfants, quel que soit le milieu d'où ils viennent. Là, j'ai une petite filleule avec l'Institut Télémac, dont les parents sont originaires de Guinée. Et je lui dis, il faut que tu lises. Il faut que tu te réfugies à la bibliothèque et que tu lises. Moi, j'ai grandi dans une toute petite ville de province et j'avais lu tous les livres de la bibliothèque quand j'étais petite. Et du coup, la bibliothécaire, elle devait me commander des nouveaux livres. Je devais avoir 8-10 ans parce que j'avais déjà lu tous les livres de la bibliothèque.
Génial.
Et c'était vraiment mon refuge. Je me rends compte que beaucoup de mes meilleures amies aussi, elles ont grandi avec les livres. Et il y a des livres qui m'ont portée, il y a des livres qui ont changé ma vie, changé ma vision des choses. Je trouve ça incroyable, oui.
Est-ce que tu en as un ou deux à nous
J'en ai deux, trois. Alors, Le soulier de satin de Paul Claudel, incroyable. C'est un condensé du monde. C'est ubuesque, c'est grotesque, c'est lyrique, c'est sublime. C'est drôle, c'est dramatique, c'est un condensé du monde. Et s'il faut lire qu'une scène, parce que c'est une pièce de théâtre qui fait 400 pages, donc en fait, en général, elle fait 12 heures, et il y a peu de monde qui se lance dans sa lecture, il faut lire la première scène de l'acte 1, le père jésuite tout seul sur un bateau. C'est dingue. Ensuite, il y a Big Magic d'Elisabeth Gilbert, Comme par magie, qui est la personne qui avait écrit Manche Prième. Mais je n'avais pas trop aimé Manche Prième parce que j'ai un peu une vie à la Manche Prième. Donc, ça ne m'avait pas trop marqué. Mais Big Magic, Comme par magie, je l'ai lu au moment de la mort de Seb. Je lisais et il m'a aidé à tenir debout. Il est dingue. Et enfin, La recherche du temps perdu de Proust.
Ok.
Quand je sens que mon français devient mauvais parce que je parle trop ou je rencontre trop de gens ou je parle trop dans d'autres langues parce que je suis en voyage ou quoi, je me replonge dans quelques pages de La recherche de temps perdu et mon niveau de français remonte comme par magie.
C'est fantastique, j'avais justement besoin de ça.
Merci Marcel.
Merci.
J'aime La recherche pour d'autres raisons aussi, hein, évidemment.
Tu vois, pardon ?
J'aime La recherche pour d'autres raisons aussi.
C'est-à-dire ?
Pas que pour remonter mon niveau de français.
C'est un monument sur lequel je ne me risquerais pas à faire de commentaires, mais c'est un monument français qui a changé ma vie aussi.
Fanny, on a parlé des cours que tu donnes à la School of Life, et je sais que les cours de conversation sont tes petits favoris. Tu en donnes depuis 6 ans, pardon. Quel format prennent-ils concrètement ? Ce sont des conversations ?
Oui, c'est des ateliers en fait. Alors on dit cours parce que je file la métaphore de la school, mais il n'y a rien de moins formel qu'un cours de la School of Life. Cours de conversation, c'est plus un atelier conversation où on converse justement, et j'invite les gens à réfléchir à des bonnes conversations qu'ils ont pu avoir et pourquoi elles ont eu lieu avec cette personne-là, à cet endroit-là. Essayer de trouver la petite étincelle qui a fait partir la conversation. Donc j'ai fait échanger, c'est un exemple, c'est un de mes premiers exercices. J'ai fait échanger par deux avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Donc je les force à se séparer s'ils sont venus ensemble. Enfin, je les force, ils font ce qu'ils veulent. Mais... Et de là, on remet en commun en se disant, c'était quoi les étincelles ? Est-ce que vous étiez tout seul lors d'un voyage, donc vous n'aviez pas votre téléphone portable ou votre masque social ? Est-ce que c'était un petit compliment et qui tout de suite est tombé pile ? Est-ce que vous avez pris un risque ? On peut avoir des conversations les plus anodines ou des discussions anodines. On peut sortir des magnifiques conversations en fait si on sait comment. Et je pense que la conversation c'est un art, mais plus au sens artisanal. Et ça s'apprend, ça devrait se travailler, ça devrait se pratiquer aussi sans cesse. Sinon on devient un robot. Parfois on a l'impression d'être un robot dans ces conversations. Moi je m'ennuie jamais parce que j'essaye toujours de mettre un peu d'espièglerie. J'aime bien quand ça gratte un petit peu, quand je sens qu'il y a un truc qui gratte, je le dis, je suis un peu honnête et cash, hein, mais j'aime bien parce que je me dis qu'il y a un truc à creuser peut-être. Et donc c'est un cours, donc je dis cours pour la school, mais c'est un atelier qui est très interactif et qui aborde plein de côtés de la conversation pour se faire poser des questions aux gens. C'est des questions de bon sens, mais ils me disent, tiens, j'avais jamais pensé à ça. Qu'est-ce qu'on répond à la question, tu fais quoi dans la vie ? Ben, en général, tout le monde répond son travail. Alors que son travail, ben, c'est pas ce qui nous définit. En plus, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et on répond, je suis comptable. Alors, il y a un décalage déjà qui s'opère du faire à l'être. Et en France, on est cartésien, je pense, donc je suis. Donc, je suis comptable, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je ne pense pas. En italien, on répond, je fais la secrétaire. Mais en français, on répond, je suis entrepreneur, je suis comptable. Tout de suite, c'est l'essence. Et rien que se rendre compte de ça, ça nous fait nous poser des questions. Et changer notre point de vue. Y a des gens qui me répondent, je fais de mon mieux. Tu fais quoi dans la vie ? Je fais de mon mieux.
Toi, qu'est-ce que tu fais ?
Alors, quand j'aime pas trop la personne et que j'ai pas envie de poursuivre la conversation, je réponds, j'ai écrit un livre pour éviter que les gens me posent cette question. Parce que j'ai un chapitre entier dédié à cette question dans mon bouquin. Et en général, ça coupe bien la conversation, ça fout un bon froid, j'ai l'air d'une peste, et voilà. Sinon, moi, je préfère répondre... Alors, pour moi, c'est un peu compliqué, mais je préconise de répondre. Est-ce que tu veux savoir ce que je fais pour gagner ma vie, payer mes factures, ou est-ce que tu veux savoir ce qui me fait vraiment vibrer ? Et là, en général, 99% des gens vont dire « Dis-moi ce qui te fait vibrer. » Parce que si vous le dites comme ça, avec toute cette conviction, c'est qu'on a l'air animé. Moi, en général, je réponds « Tu fais quoi dans la vie ?» Je réponds pas parce que j'ai pas d'étiquette, en fait. Je jongle avec plusieurs titres, avec... passion et conviction. Donc, je préfère répondre, j'ai 2-3 passions, la culture, la nature et la transmission. Et en fait, la personne, elle va prendre un truc au vol, soit la culture, soit la nature, soit la transmission. En général, les 3 trucs en France parlent aux gens. À Dubaï, je pense pas, mais à Paris ou en France, il y a toujours un des 3 qui interpelle. Et du coup, ça permet aux gens de rebondir en disant « Ah, la nature !» Et hop, on part dans une conversation différente.
Super.
Donc, c'est s'engager, en fait, prendre un risque. Parce que si jamais la personne est un peu rigide, elle me demande « Tu fais quoi dans la vie ?» et je réponds « Je suis passionnée par la culture, la nature et la transmission », elle va se dire « Ok, bon, ça va être chiant, ça. » Et dans ce cas, ça élimine tout de suite les mauvaises conversations ou quoi. Donc, voilà. Je pense qu'il faut prendre... Il y a une part de risque dans la conversation.
Et les étudiants de la School of Life... C'est qui ?
Moi, je les appelle plutôt les participants parce que les étudiants, les pauvres. Mais il y a de tout et c'est ce que j'adore. Il y a des hommes, il y a des femmes. Il y a plutôt une majorité de femmes en général, mais c'est des cours mixtes. D'ailleurs, mes profs, j'ai moitié-moitié. J'ai des gens parfois assez jeunes, des étudiants ou des gens qui commencent dans la vie active, jusqu'à 78 ans. En général, les gens ont entre 30 et 50 ans. Mais j'ai du mal à faire de moyenne parce que
je ne leur demande jamais ce qu'ils font dans la vie et je me fie jamais aux apparences, donc je sais pas trop.
Ils ont un point commun ?
Bah, c'est des gens curieux, avides d'apprendre, de se poser des questions sur eux, sur la vie. Il y a un cours qui s'appelle « Quel est le sens de la vie ?» Gros programme.
Peut-être que j'y assiste à celui-ci.
Et c'est pas moi qui l'anime.
D'accord.
Mais il y a aussi pas mal de gens qui se posent des questions à un moment dans leur vie en se disant « J'ai fait tout ce qu'on m'avait dit qu'il fallait faire. J'ai fait des études.
J'ai coché toutes les cases.
J'ai coché toutes les cases. J'ai fait un beau poste. Tout le monde me disait « Mais t'as un job de rêve. » Moi, mon premier job, mais tout le monde m'a dit, quand j'ai démissionné d'un CDI dans cette boîte, tout le monde m'a dit « Mais t'es folle, t'as un job de rêve. » Peut-être, mais c'est pas mon rêve à moi. Et du coup, ouais, beaucoup de gens viennent en se disant j'ai coché toutes les cases, mais je me suis peut-être plantée à un moment, il y a peut-être un chemin que j'ai pas pris, ou que j'ai pris et qu'il fallait pas prendre, un sens unique ou un cul-de-sac. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'on n'a pas les réponses du tout. Et au contraire, ils vont certainement sortir des cours avec encore plus de questions. Mais que néanmoins, ça va peut-être les ouvrir à autre chose, à d'autres réflexions et à une autre vigilance. Donc voilà.
Donc il n'y a pas besoin d'une sensibilité particulière pour assister.
Non. Non.
Super.
Et puis après, il y a des gens parfois très plus rigides que d'autres. Mais en général, moi, je leur dis toujours, il y a peut-être un truc qui ne va pas du tout vous parler. Il y a peut-être un truc qui va un peu vous gratter. Moi, j'aime bien quand ça gratte un peu. J'en ai marre des cours de psychologie positive et de bonheur. Ça m'emmerde. C'est un mensonge éhonté. Il faut arrêter tout de suite tous ces trucs. Moi, j'aime bien quand ça gratte. J'aime bien quand ça torture un petit peu, etc. Je me sens quelqu'un de très souriant, très positif. Mais néanmoins, j'aime bien aussi explorer le côté sombre, en fait. Et on a tous un côté sombre, une part d'ombre, mais je pense qu'il faut l'embrasser, lui tendre la main de temps en temps.
Et c'est cette part d'ombre qui nous permet de voir la lumière aussi, je pense. Mmh. J'ai deux questions assez personnelles, à toi de voir à quel niveau tu veux les interpréter. Fanny, qu'est-ce qui est sacré à tes yeux ?
Je pense que ce qui est sacré, c'est, ça va peut-être paraître égocentrique, mais je ne pense pas que ça le soit, c'est le moi. C'est son petit sanctuaire intérieur. Son corps, respecter son corps et respecter qui on est. Avant de vouloir se mêler aux autres et respecter les autres, je pense qu'il faut apprendre à plus s'aimer et à plus se respecter. Et ça, c'est sacré. Et je ne pourrais pas aimer les autres si je ne m'aimais pas moi-même. Or, l'amour de soi, c'est pas inné, c'est pas facile. On peut avoir des hauts et des bas. C'est parfois les montagnes russes. Mais je pense que ça, c'est important. C'est une hygiène nécessaire. Donc pour moi, ce qui est sacré, c'est le moi. Cette citadelle, cette magnifique forteresse, cette magnifique coquille qu'on a, extérieure et intérieure, notre corps et notre psyché, notre mental et notre âme. Et pour moi, ça, c'est sacré. Ne pas déranger ce moi des autres aussi. Ne pas le blesser, ne pas le heurter, le respecter et me respecter aussi.
Merci pour ce partage. Qu'est-ce que tu veux vraiment ?
Plein de choses. Je fais partie des gens qui dorment peu parce qu'ils ont des rêves qui les tiennent éveillés. D'où ça se transforme souvent en travail, mais aussi en réflexion, en écriture énormément, en méditation. Alors j'ai ma méditation à moi, hein. Je médite pas comme en position du lotus forcément et voilà. Mais attends, c'était quoi la question ?
Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Mais je suis intéressée de savoir si ta méditation peut être partagée dans sa technique.
Qu'est-ce que je veux vraiment ? Je veux juste essayer de respecter qui je suis. J'ai l'impression que je suis née avec une mission. Je suis née avec une énergie extraordinaire. Je remercie mes parents, je remercie Dieu, je ne sais pas. Mais je me rends compte que j'ai une énergie et une détermination assez exceptionnelle. En tout cas, c'est ce que les gens me disent. Parce que moi, je suis née comme ça, donc j'ai l'impression que je suis.
Je confirme.
En fait, il faut l'honorer, il faut en prendre soin aussi, hein, faut savoir se ménager. D'où le week-end dernier, ma retraite yoga pendant 48 heures au fin fond de la Normandie, à se lever à 5h30 du matin pour chanter et faire du Kundalini. Mais j'ai des rêves, des envies que je verbalise pas forcément parce que c'est très privé, puis ça peut changer aussi en fait. Je ne sais pas où je vais, mais je sais que je suis sur la bonne voie tant que j'écoute ma voix intérieure. C'est marrant le parallèle entre voix X et voix E. Mais j'ai aucune idée de ce que je suis en train de bâtir, construire, mais je sais que j'y vais en fait. Et l'important pour moi, c'est de rester en mouvement et de prendre soin de cette petite flamme intérieure, cette petite étincelle et l'énergie qui nous est à chacun et chacune unique. Et je ne sais pas si dans 5 ans, je m'engagerai en politique pour notre pays. Je sais pas, j'aurai 10 enfants, bon, je pense pas. Ça m'a jamais trop intéressée, mais ou alors si jamais je partirais à l'autre bout du monde, vivre des aventures ou donner de mon temps pour un projet ou que sais-je, ou si je serais au fin fond de la Normandie en train d'écrire des livres, on n'en sait rien. Et c'est ça qui est beau avec la vie, en fait. L'important, déjà, on est en vie. Et moi, je sais l'importance de la perte, hein, du décès, du deuil, que ça peut s'arrêter comme ça. Un soir, un vendredi soir de novembre, au coin d'une rue. Et du coup, c'est ce qui me donne la force, c'est le respect pour tout ce que mon ami n'a pas pu vivre. Et du coup, chaque anniversaire qui passe, je me dis, on était nés la même année, en 78. Et chaque anniversaire qui passe, en général, les filles, elles scrutent leurs rides. Mais je suis tellement heureuse d'être en vie. Et c'est ça qu'il faut honorer, qui est sacré pour moi.
Bon ben voilà, j'en ai les larmes aux yeux, merci. Fanny, quelle est ta plus grande peur ?
C'est de perdre le sens, hein, c'est de perdre cette petite énergie, cette petite flamme en moi. En fait, ma plus grande peur, elle m'est déjà arrivée. En perdant la personne que j'aimais, ça m'est arrivé subitement, et perdre quelqu'un que j'aime, je ne sais pas si maintenant je peux dire que je sais faire. Mais peut-être que je suis un petit peu plus outillée que d'autres. C'est pareil, ça, on n'apprend pas à l'école. À la School of Life, il y avait un cours qui s'appelait « Comment faire face à la mort ?» À la sienne, à l'idée de sa propre mort. C'est la mauvaise foi de Sartre, se dire qu'on ne mourra pas comme ça. Sinon, ça va nous obséder à tout moment de notre vie. On fait tous comme si on était éternel. Sa propre mort et puis la mort des autres. Et moi, ma plus grande peur, elle s'est déjà réalisée. Et en fait... même si je donnerai tout ce que j'ai pour que ça ne soit pas réalisé, ben, ça libère. Parce que je sais que je suis forte et que j'arriverai à rebondir. Donc, du coup, ma plus grande peur, je crois que c'est perdre cette énergie et cette force incroyable et ce sens.
On arrive aux questions de la fin. Et la première, as-tu une phrase inspirante qui t'aide à te lever le matin ?
Plusieurs. Tous les jours, je me dis, qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui, en fait ? C'est oui, toujours se mettre dans la dynamique de la curiosité et d'apprendre. Ensuite, il y a une phrase que je cite souvent, et je l'ai citée à son enterrement, parce que c'était la phrase qu'on avait eue à l'examen d'entrée à Sciences Po. Quand j'ai passé l'examen de Sciences Po, j'avais peur d'échouer, évidemment. J'avais pas les moyens de me payer une prépa privée alors que tout le monde avait fait ça. Et je sortais de nulle part. Je suis arrivée à l'examen de culture générale et la phrase qu'on nous proposait est une phrase de René Char, qui était poète et résistant. C'est « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Et c'est un peu la phrase qui a guidé toute ma vie. Et c'était notre phrase préférée à Seb et moi, parce qu'on était rentrés à Sciences Po grâce à cette phrase. Et je l'ai lue à son enterrement. C'était quand j'ai fait son hommage. Et moi, c'est la phrase qui a guidé toute ma vie, quoi. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 18 ans. Je crois jusqu'à l'époque, je n'avais pas d'amis. Parce que j'étais un zèbre. J'ai grandi dans une ville de Zep, au fin fond de la Lorraine. Et je n'avais pas d'amis. Alors heureusement, j'avais une fratrie, frères et sœurs. Mais je n'avais pas d'amis. Et on se moquait tout le temps de moi parce que j'étais première de la classe, etc. Et en fait, c'est marrant, mais ne pas être aimée par des amis, avoir des copains quand on est petit. Aujourd'hui, j'ai des amis incroyables et hallucinants, mais qui étaient tous, comme moi, des vilains petits canards. Que ce soit ma meilleure amie à Clermont-Ferrand ou l'autre à Neuilly, pour des raisons diverses et variées, c'était des vilains
petit canard. Et en fait, ce que j'adore, c'est que étant adulte, les vilains petits canards, ils se reconnaissent entre eux tout de suite. Et ça connecte et ça fait des étincelles. Et j'adorerais revenir en arrière et faire une petite pièce comme ça où je réunis Fanny, Chourouk, Gwendoline, Céline, Stéphanie, Marion, toutes mes amies qui sont des zèbres, des vilains petits canards comme moi, et me dire, petite, mais j'aurais tellement aimé qu'on me dise, t'inquiète pas, ça va passer, et un jour tu vas croiser des gens comme toi.
J'adore ce clin d'œil, on est aujourd'hui dans ton appartement où il y a notre petite table zèbre qui,
ah oui.
qui nous sépare.
C'est vrai, j'avais jamais fait le rapprochement.
Les centrales pourtant dans la pièce, donc une certaine importance. As-tu un mentor, une personne inspirante? Je sais que tu nous as parlé des rôles modèles tout à l'heure qui ne sont plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un?
Eh ben non. En fait, je crois que c'est difficile aujourd'hui, finalement, d'avoir des mentors en étant une femme. Je crois qu'en fait, il faut creuser la voie, finalement. Il n'y en a pas encore beaucoup. Il y a des femmes que j'admire, personnellement ou professionnellement. Par exemple, j'aime beaucoup Fabienne Dulac. C'est la PDG d'Orange France. Cette femme, elle manage 77 000 personnes. Et elle est sympa, elle est à l'écoute, elle est incroyable. Et j'ai déjà eu la chance de dîner avec elle ou de prendre des cafés avec elle. Oh, je la trouve incroyable. Et donc, il y en a quelques-unes comme ça, mais je n'ai pas de mentor. Et du coup, je vais vous inviter, j'allais dire lecteur, mais non, auditeur, je vais vous inviter à aller voir le discours d'acceptation de l'Oscar de Matthew McConaughey, qui dit qu'on lui demande toujours s'il a un mentor, et il dit « Non, mon mentor, c'est moi dans 5 ans ». Et 5 ans plus tard, il croise la personne qui lui dit « Alors, ça y est, t'es devenu ton propre mentor ». Et il dit « Non, 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 c'est moi dans 5 ans ». Etc, etc. Et en fait, il dit, bah, je ne serai jamais cette personne-là, parce que je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais j'y vais et on verra. Et c'est un peu ça, en fait. J'ai un ange qui me suit, qui m'accompagne depuis bientôt 5 ans. J'ai des amis autour de moi qui sont des sources d'énergie, des sources d'inspiration à la vie, à la mort, pour le difficile, souvent le dirty, le difficile, etc. Et pour les éclats de rire et le facile et l'amour et tout ça, j'ai une famille super, mais je crois pas que j'ai de mentor, en fait. Ou alors c'est Frankenstein. Je m'inspire de pièces d'ici et là pour les assembler, pour faire mon propre mentor. À la School of Life, on avait un exercice dans l'atelier de créativité qu'on fait plus d'ailleurs. C'était « Dessine ta propre muse ». Et en fait, souvent, bah, c'était des Frankenstein avec ça de telle personne et ça d'une autre. Donc voilà, c'est chouette d'avoir des mentors. J'aurais aimé en avoir plus quand je grandissais. Et maintenant, quand on me demande, bah, j'essaye de l'être pour des gens plus jeunes. Mais je n'ai pas assez de rôle modèle ou de mentor en face de moi en tant que femme du 21e siècle. En fait. C'est soit noir, soit blanc, soit la super businesswoman, soit la maman, ma sœur est sage-femme, elle est mère de 3 enfants et elle est à fond. Mais il n'y a pas de juste milieu, en fait. Et souvent, quand on admire quelqu'un, on se dit oh, « j'aimerais tellement avoir sa vie », mais en fait, non, t'aimerais pas avoir sa vie, t'aimerais bien avoir une partie de ce qu'elle a construit ou de ce qu'elle a fait, mais tu veux pas tout parce que tu sais jamais ce qu'il y a derrière les portes closes.
As-tu un conseil pour quelqu'un qui cherche à aligner ce qu'il est profondément, ce en quoi il croit, avec ce qu'il fait au quotidien?
Mais on en parlait tout à l'heure, c'est mettre du silence dans sa vie. Ouais. C'est ne pas regarder son portable pendant quelques heures, le laisser au fond du sac. Moi, le mien, il est souvent sur vibreur ou, depuis quelques semaines que j'ai découvert cette fonction, sur lune.
Oui, le ne pas déranger.
Ouais, bah, je suis tout le temps sur lune, en fait. Et Dieu merci, comment est-ce qu'on veut être aligné? Parce que c'est ça, c'est une question d'alignement avec qui on est, avec ses valeurs. Comment est-ce qu'on veut être aligné si on a des notifications sans cesse sur son téléphone? Moi, régulièrement, je ne sais pas pourquoi, de temps en temps, j'ai des notifications Radio France, Météo, Instagram. Et régulièrement, je les enlève. Ça revient. Alors, je dois accepter des trucs sans faire exprès ou quoi. Mais c'est faire silence en soi et autour de soi. Se trouver un moment de libre. Ma coach qui m'a formée au coaching s'appelle Shin Lantzman. C'est une femme super. Et elle a cette idée de se faire un rendez-vous avec soi-même. Pour moi, c'est facile. J'ai pas de gosse et je vis toute seule. Donc, mes dimanches, j'appelle ça un dimanche de sauvage. Mes dimanches, je les passe toute seule, enfermée chez moi, à rêver. Après, si j'ai envie d'aller prendre un café ou faire un tour, aller au sport ou quoi, je le fais, mais je passe ma journée sans rien prévoir. J'ai rien dans ma journée du dimanche. Mais comme ça, c'est plein de possibilités. Et c'est le moment que je prends pour lire. Là, j'ai déjà placé les 3 livres que je vais lire demain sur la petite tablette, que je réfléchis, que j'écris, que je me pose et que je me réaligne avec moi-même. Et ça, je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner. C'est affronter son silence. Il y a plein de gens qui ont peur du vide. Il ne faut pas en avoir peur parce que c'est là où justement on peut apprendre à mieux se connaître.
À présent, 2 vérités et 1 mensonge.
Je suis luxembourgeoise. Je suis aussi chanteuse de jazz. Et mon livre vient d'être réimprimé.
Super. Merci, c'est dans la boîte. J'ai habituellement, et c'est le deuxième interview où j'oublie mon totem, le totem du podcast Insensé s'appelle Ashanti. C'est une petite poupée en bois que je vais te laisser imaginer parce que je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui. Cette poupée, elle est symbole au Ghana de fertilité. Je me la suis réappropriée et c'est un peu la baguette magique du podcast. Cette baguette magique fait réaliser les rêves et j'aimerais te la prêter symboliquement et de manière totalement imaginaire.
Je prends.
Merci. Et te demander quel vœu est-ce que tu pourrais partager sur le podcast pour que ce monde ait un peu plus de sens.
J'aimerais que les gens prennent un peu plus de temps pour réfléchir, se poser. J'aimerais simplement que les gens prennent plus de temps pour s'éduquer, pour mieux s'informer, mieux écouter les infos, les news, faire de la place au silence pour mieux réfléchir. Si les gens réfléchissaient davantage, non, c'est horrible de dire ça, je ne vais pas dire ça, mais si les gens prenaient plus de temps pour se former leur propre opinion et pour se documenter, se cultiver, grandir, peut-être que le monde tournerait un peu plus rond. Enfin, l'éducation, c'est une hygiène, c'est au jour le jour, c'est du travail. C'est sûr que c'est plus facile de regarder une série sur Netflix que de lire un bouquin. Ça, c'est clair. Mais néanmoins, sur le moyen, sur le long terme, qu'est-ce qui va changer ma vie ? Je ne suis pas sûre que ce soit la série. J'étais fan de Game of Thrones. Je trouvais ça super. J'étais à fond. Je suivais les trucs et tout. Mais au final, je ne sais pas ce que ça m'a apporté. Alors que si, au lieu d'avoir passé toutes ces heures devant Game of Thrones, j'avais relu La Recherche du Temps Perdu ou découvert des poètes que je ne connais pas, peut-être que ça m'aurait davantage changé finalement.
Oh non ! Mince ! Bye bye, Jon Snow ! As-tu... quelqu'un qui aurait aligné ce qu'il fait et ce en quoi il croit, qui serait bon d'inviter sur le podcast Insensé. Quelqu'un à me recommander.
Oh là là, mais j'en ai des tonnes. Il y a ma copine Séverine Perron qui est incroyable, qui est, bon, je raccourcis, mais qui est un peu comme une druidesse. Elle vit en Savoie et elle a écrit un livre magnifique qui s'appelle Alchimie végétale, il n'y a pas longtemps, sur les bienfaits de la nature. C'est même pas des plantes, c'est vraiment de la nature. On l'a invitée chez Nature et Découverte dès qu'elle a sorti son livre en novembre. Elle est venue en parler, la salle était comble. Son livre est superbe. Il est aux éditions Hebeke, je ne sais pas si je prononce bien, H-O-E-B-E-K-E, Alchimie végétale de Séverine Perron. Et j'en ai acheté plein pour les offrir à mes amis. Et je viens d'en racheter un ce matin pour l'offrir à Marion, mon amie que je vois ce soir. Donc Séverine Perron est dingue. En fait, toutes mes amies sont dingues. Donc, Séverine Perron, Marion, chez qui je vais ce soir, Marion Corrales, alias Mo Cushel, qui est à la fois chanteuse, artiste, prof de yoga, c'était ma prof de chant. Là, elle attend son deuxième bébé pour bientôt. Elle est prof à la School of Life, elle a fait des études à la Tisch School of the Art, là où Lady Gaga a étudié, des études de performance artistique. Et après, elle s'est formée au Tamalpa avec Anne Alprin à San Francisco. Elle m'a appris énormément de choses, transmis beaucoup de choses sur l'art. Elle m'a fait découvrir Marina Abramović. Elle m'a fait découvrir beaucoup d'artistes et elle m'a invitée à porter un regard différent sur l'art et je l'en remercie. Et aussi mon amie Gwendoline qui a fait Sciences Po HEC Prépéna et qui a quitté HEC, elle n'a pas terminé, elle a quitté la Prépéna où elle avait Édouard Philippe en prof de droit constite pour devenir meneuse de vue aux Folies Bergères. Parce qu'elle était aussi chanteuse lyrique et pianiste, un garçon manqué, mais elle s'est rendue compte qu'elle allait sur des chemins de traverse qui la menaient un peu trop loin, la HEC Prépéna. Donc elle a tout quitté pour devenir meneuse de revue aux Folies Bergères. Elle est allée à l'audition, garçon quel manqué, courage. C'est elle qui a été embauchée. Elle a dû apprendre à se mouvoir sur scène, à charmer la salle, etc. C'est pas évident quand on sort de ces grandes écoles. En général, on a le dos plutôt courbé. Ouais. On se tient pas très droit sur scène. Elle a dû apprendre à danser, à se mouvoir. Aujourd'hui, elle est artiste, écrivaine. Elle a fait sa première expo de ses collages il y a pas longtemps et de ses peintures. C'est une femme dingue qui a à la fois une lumière et un panache et une humilité incroyable. Donc Gwendoline Finas de Vilaine. J'en ai plein quoi, des femmes, des mamans, des amis qui sont dingues. Il y a Céline Orjubin qui est une des cofondatrices de My Little Paris, qui est maman de deux petites filles et qui est une femme lumineuse et hyper alignée. Il y a Chourouk, une de mes meilleures amies aussi, qui est créatrice de bijoux et qui est passionnée par le bling et qui, finalement, envoie de beaux messages pour mettre un peu de glam et s'autoriser un peu de bling et de glitter dans sa vie. Et en ces temps qui courent, ça ne fait pas de mal non plus. J'ai beaucoup, beaucoup de femmes incroyables autour de moi.
C'est fantastique. Je suis pressée de les rencontrer. Fanny, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite ?
De l'énergie. Toujours de continuer avec... C'est pour ça qu'il faut respecter son sanctuaire, mais son corps aussi. De ne pas trop tirer sur la corde. Et en ce moment, je fais attention parce que l'hiver n'est pas facile. C'est facile pour personne. Hein. Et donc, d'avoir toujours cette petite flamme qui m'anime depuis que je suis toute petite et qu'elle ne s'éteigne jamais.
C'est ce que je te souhaite. Merci infiniment de nous avoir partagé sur le podcast Insensé.
Avec plaisir.
Et plein, plein de belles énergies pour toi.
J'espère que je n'ai pas raconté trop de bêtises.
A priori, non. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Si le sens est important pour vous, trois manières de m'aider à faire grandir le podcast Insensé. La première, notez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. La deuxième, partagez sur tous vos réseaux sociaux. Et la troisième, suivez-moi sur Instagram. À dans 2 semaines!
Insensé. Comprenez bien le sens, qu'il soit propre, sale ou figuré. Sans aller dans mon sens, non! Ne me brossez pas dans le sens du poil. Faites appel à vos 5 sens. Mettez-vous sans dessus-dessous. Car non, ce n'est pas à sens unique, mais bien à double sens.
À demain !
Attends, on peut la refaire.
Ah, j'adore.
La vérité, c'est que je suis luxembourgeoise.
C'est marrant, tout le monde galère à trouver le mensonge. Et toi, c'était...
Moi, je rêverais d'être chanteuse de jazz. Il y a 2 jours, j'étais à Change Now, tu sais, le salon. Ouais. J'étais sur scène, j'ai fait une table ronde sur Bicorp et j'ai parlé en anglais pendant 1 heure de l'engagement et de Bicorp, etc. Et tout le monde sur mon Instagram était là, putain, mais t'es trop forte. Et le matin, j'avais fait ma rentrée à Sciences Po. J'avais fait une story sur le syndrome de l'imposteur. Du coup, toute ma communauté était là, putain, mais je t'admire, etc. C'est trop chouette. Et le soir, j'étais au bout de ma vie, j'étais épuisée. Je suis affichée dans un de mes cafés préférés qui s'appelle François Félix, et le dimanche soir, une chanteuse de jazz. Moi, j'avais juste besoin de me poser comme ça, poser mon téléphone. Et là, la chanteuse, elle chante, tu vois, genre des trucs un peu pop et tout. Et j'ai fait une story et j'ai mis, en fait, j'ai raté ma vie. Ça, c'était ma vocation. Sauf que je chante vraiment pas bien. Donc, à défaut d'être chanteuse de jazz, j'ai fait tout ce
génial. Sinon, je serais juste Jessica Rabbit dans un bar.
Tout simplement.
C'était mon rêve.